Moran, chanteuse et violoncelliste, tu découvres la musique à l'âge de 5 ans à travers le piano. Et l'année dernière, tu dévoiles Emenetset, une fresque musicale collaborative et particulièrement ambitieuse. Et en mai dernier, tu sortais l'EP Le roman de Molière, où tu donnes vie à la trame sonore qui se cache derrière la pièce de théâtre éponyme. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, sur la liberté qui se cache dans tes explorations sonores et sur les performances scéniques que tu crées?
Waouh! Écoute, bien sûr, ça va me faire plaisir. Merci de me poser ces questions-là parce que ça m'amène à réfléchir à tout ce parcours depuis mes 5 ans jusqu'à maintenant. Je pense que tu l'as bien dit dans ton intro, en fait, parce que tu as parlé de la liberté, ou je me trompe, ou je l'ai imaginé que tu l'as dit, mais tu as parlé de la liberté de composition ou la liberté d'expression musicale qui peut prendre plusieurs formes, parce qu'on peut souvent avoir aussi une grande liberté, même à travers l'interprétation de pièces qui sont déjà existantes, qui ont déjà eu une vie, puis leur permettre une autre vie à travers justement une liberté qu'on s'octroie, qu'on se permet, quand une œuvre vraiment vient nous toucher. Mais moi, ce qui était à la base de mon désir de partir en musique, hein, quand j'étais encore au secondaire, c'était cette possibilité de vivre, on dirait, je l'interprète, je le dis comme ça maintenant, mais c'est comme de vivre dans cette autre possibilité d'être musique. Donc, c'est pour ça, je pense, que j'ai cette liberté-là. Depuis le début, en musique, tu sais, de pas... les gens pensaient que je voulais peut-être provoquer avec, mettons, l'album 16 mm ou l'album... même sur Vent fou, il y avait beaucoup de pièces avec la voix sans mots, mais loin, au contraire, c'était l'ultime façon d'être totalement libre en musique pour moi. C'était ça vraiment la prémisse qui m'a amenée à devenir qui je suis maintenant. Autant j'aime créer à partir de rien du tout, c'est-à-dire de partir vraiment de tous les possibles, autant j'adore créer en équipe. Quand il faut que je me mette vraiment au service de la vision de quelqu'un d'autre, mais c'est toujours une collaboration. L'autre me donne des outils aussi pour que je puisse la comprendre, que je puisse comme voir où est-ce qu'on peut aller. Puis c'est toujours avec cette idée qui est accepté de part et d'autre de laisser une empreinte personnelle. C'est là le but, en fait. C'est de pouvoir être suggérer quelque chose d'unique. Ça, c'est pour tout le monde en art, en fait. Mm-hmm. Je pense.
Et donc, dans cette liberté un peu donc de sortir des cadres, qu'est-ce qui t'anime particulièrement dans ta création? Est-ce que tu dirais qu'il y a comme un processus particulier quand tu crées? Par exemple, on peut se demander quel a été le moteur dans l'élaboration d'Emenetset.
Ouais.
La même pièce.
Il y a énormément de choses qui me passionnent, qui m'interpellent, qui m'influencent. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup des conférences, justement des TED entre autres, et que ce soit dans des moments où je suis peut-être perdue, ou dans des moments où je ressens, peu importe le sort d'émotion que je ressens, quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai besoin de me sortir de quelque chose, de virer vraiment comme la situation, ce que je vais faire la plupart du temps, que ce soit en art ou dans n'importe quelle autre situation, je vais aller taper l'émotion qui m'habite à ce moment-là, puis je vais aller écouter quelque chose, une conférence, une personne qui tout d'un coup va venir trigger, va venir comme pousser sur le bon bouton, si on veut, pour que je puisse sortir d'un impasse, tu sais. Ou des fois, c'est tout simplement par curiosité, puis ça, oh, ça vient allumer vraiment un désir d'expression, puis de création, en fait. Je pars rarement avec une idée toute faite, en fait, de ce que j'ai envie de créer. Parfois, on est tout de même poussé, si on veut, là, à mettre par écrit qu'est-ce qu'on a envie de trouver à la fin, mais étrangement, je trouve que c'est beaucoup plus le fun de se dire on part à la recherche de quelque chose, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va trouver. Quand on part avec un pack-sac sur le dos en voyage, oui, on peut exactement se faire un itinéraire, mais qu'est-ce qui se passe si on se laisse un peu aller aux rencontres qui vont se faire, aux opportunités? Oui, on peut partir tout de même, bon, avec un cadre, puis si les choses sont... suivre ce cadre-là, tant mieux, mais c'est la même chose en création. C'est le fun de pouvoir se dire qu'une telle mélodie va en amener une autre, puis va finalement nous amener une autre idée d'instrument ou d'interprétation. Et tout d'un coup, la composition prend vraiment une tournure complètement différente.
Et justement, à travers tout ce chemin de construction, quand tu regardes ces vidéos de conférences, par exemple, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'influences peut-être plus spécifiques qui accompagnent ton travail artistique? Par exemple, comme des artistes qui t'ont beaucoup inspiré?
Ben oui, c'est sûr que... Mais je comprends, tu sais, c'est souvent le même... Clairement que toute la musique que j'ai écoutée depuis le début de ma vie, les artistes de maintenant, tout ça fait partie de moi. Il faut, tu sais, comme sur Eminet 7, entre autres, là, on est vraiment allé chercher, entre autres, un son de corde, tu sais, vraiment à la Johan Johansson, Björk, Niels Fram. C'est un son de corde très froid. Où est-ce qu'on nous a permis, en fait, de laisser toute la place à la partie électro en dessous. Tu sais, il y a quand même une recherche. Tu vas chercher des références, mais cette musique-là est tellement construite comme une musique de film que, dans le fond, le scénario, c'est un scénario musical. Tu sais, pour moi, le gros trip que je me suis permis avec cet album-là, c'est un peu comme c'est un peu comme un opéra, c'est-à-dire que la musique, elle dure vraiment tout le long d'un spectacle. L'album dure 1h20, mais il y avait énormément de mise en scène, des costumes, des déplacements, de la vidéo, des projections. C'était comme de créer un monde complet, si on veut, à partir de la musique. Parce que souvent, la musique, elle est assujettie à un projet, à une vision, puis c'est correct, mais c'est mon genre de gros trésor, là, par moment, c'est de permettre à la musique de demander aux autres formes d'art autour de dire, OK, toi, maintenant, comment tu t'arrimes à cette musique-là? Comment tu peux, oui, la magnifier? C'est, tu sais, après avoir été, moi, collaboratrice sur plein de projets, pour des metteurs en scène, pour des réalisateurs, réalisatrices, c'était comme tout d'un coup à mon tour d'être entourée de tous ces concepteurs-là, conceptrices, qui sont venus nourrir la production de cette œuvre-là.
J'aimerais que tu nous parles un petit peu plus en détail, peut-être, de la genèse d'Eminet 7.
Oui, certainement. Il y a eu trois grandes œuvres, il y a eu trois œuvres littéraires qui m'ont vraiment touchée et qui m'ont suivie tout le long du processus. On parle de 6 ans quand même. Il y a le livre de Abdennour Bidar qui s'appelle Les Tisserands, qui parle de ce lien important, ces trois liens importants, recoudre les tissus déchirés du monde. Ces trois liens qui est le lien à l'autre, le lien à soi-même et le lien à la nature. Comment entretenir au quotidien ces liens-là et comment il faudrait que tout le monde... que nous puissions ensemble recoudre tous ces liens-là. Ça, j'ai trouvé que c'était un livre porteur et très, qui m'a réconciliée, je dirais, dans un sens, avec cette idée que nous sommes plusieurs artisans, plusieurs tisserands partout dans le monde à vouloir recoudre ce tissu déchiré là et qui travaillons ensemble tout le temps à refaire ces liens-là jour après jour. Et ben voilà, alors ça, c'est un des messages qui a suivi, qui a fait partie de ce processus-là tout du long. Il y a Dr. Jill Bolt-Taylor, Voyage au-delà de mon cerveau. C'est à quel point on a cette possibilité de vivre, je dirais le divin, mais de vivre l'absolu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est de sentir à quel point on fait partie d'un tout, puis qu'on n'en est pas. Souvent, on parle des solitudes et des solitudes, mais elle parle de l'inverse de ça, finalement. À quel point, puis elle, bon, il a fallu que... C'est une neuroscientifique qui a fait un AVC. Et bon, elle a vécu tout ça. Puis elle porte maintenant aussi ce message-là que je trouve magnifique. Bon, en plus de toute sa rémission puis son parcours. Là. Puis l'autre livre, c'est le livre de Clarissa Pinkola Estes, qui est « Femme qui court avec les loups ». C'est un livre qui nous redonne, je dirais, aux femmes cette puissance créatrice, cette possibilité d'être en contact avec nous-mêmes, avec nos racines, parce qu'on a toute cette puissance-là à l'intérieur de nous. Et à un moment ou à un autre, on a besoin de se le faire rappeler. Puis c'est drôle parce que ce livre-là m'avait été donné plusieurs fois. Et je ne l'avais pas lu jusqu'au moment où, bon, je le lise, qui était comme plusieurs années après. Et tout arrive toujours au bon moment. Et c'était vraiment le moment où j'avais besoin de me reconnecter. Puis c'était justement, bon, avant de repartir avec ce gros projet Hemenetset, où j'ai pu me donner cette possibilité-là. On a tous des cycles ou des vagues. Et ce livre-là est vraiment arrivé à point. Alors, ces trois livres-là m'ont suivi tout du long, je dirais. Puis, c'est peut-être pas sans lien, sans même que ce soit voulu comme ça. Nous étions sept femmes à être vraiment centrales dans le spectacle où on boucle. Ben, ça, c'est à donner comme ça en même temps parce que il y avait aussi des gars avec nous, puis mais c'était plus comme à l'électro, contrebasse, piano, c'est un petit peu plus difficile pour eux de se promener avec leur instrument, mais on dirait que tout est arrivé comme ça, en fait, quand on a des intentions, quand on a des trucs, des émotions ou des idées comme ça qui nous habitent, ces idées-là ont une force créatrice qui, malgré nous, ou ben tant mieux, en fait, avec nous, prennent forme dans nos vies.
Et est-ce que tu pourrais préciser peut-être à nos lecteurs quand est-ce qu'on pourra revoir Hemenetset?
Ben ça, on va le mettre dans l'univers si vous voulez bien, parce que le gros concert Hemenetset, c'est quand même une grosse machine. Pour moi, c'est vraiment comme un gros navire, un gros vaisseau. Et en ce moment, c'est vraiment des petites navettes du vaisseau là, qui s'en vont en exploration, comme entre autres, je pars cet été pour une quinzaine de concerts en duo avec Martin Lisotte, qui lui était au piano dans ce concert-là. Et donc, on va faire la plupart des pièces de Hemenetset ensemble, en duo, parce qu'à la base, les pièces sont quand même composées voix, violoncelle, et on privie avec quatuor à cordes, avec les autres choristes, avec tout le monde, et bien sûr, ben Martin, André et Mathieu qui étaient présents depuis le début. Donc, pour Martin, tu sais, le piano, c'est vraiment l'instrument de prédilection quand on veut faire une réduction d'orchestre, évidemment. Puis, c'est un Martin Lisotte, c'est vraiment un musicien, créateur, compositeur qui a vraiment... J'aime à dire qu'on habite la même planète, parce que la même planète musicale, du moins, parce qu'on a cette facilité de partir ensemble en exploration ici et là, à travers les thèmes des pièces, mais en... Oui, appelons ça de l'improvisation, puis de se rattraper au vol comme ça pour pouvoir poursuivre. Alors, c'est... ouais.
Et comment avez-vous choisi justement les extraits du spectacle pour pouvoir les rediffuser par petites navettes?
Bien, on les a d'abord expérimentés juste en duo, ensemble. Au tout départ, on essayait peut-être un peu trop d'être proche de la version originale. Puis petit à petit, on s'est dit, OK, attends, là, ça, on n'a pas besoin de ça. Ça, on va le faire plus longtemps parce que tout d'un coup, on a beaucoup plus de liberté. Puis dépendamment aussi de des thèmes ou des passages qui viennent plus nous chercher, on se dit, ah, ça, on pourrait le faire 3 et 4 fois. Alors c'était vraiment d'abord faire confiance au processus aussi, hein, parce que on a toujours des moments de doute ou des moments où on se dit, ben non, celle-là, on ne la fera pas. Et tout d'un coup, on la revisite, on dit non, mais et si on se dit, attends, on l'a fait pour qu'elle vive vraiment en duo. Le but, c'est pas de refaire ce qui a été fait, mais de l'amener autrement, d'une autre façon, de l'interpréter vraiment à notre façon. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on approche le spectacle, le duo qu'on s'en va faire pendant l'été.
Et est-ce que, donc, en plus de Emmenetset, tu as sorti récemment l'EP, comme je disais au début, de Le roman de Molière, qui est une démarche intéressante, parce que donc, tu sors la musique de son espace de création habituel sur les scènes de théâtre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce choix?
Bien, il y a plusieurs... en fait, souvent, quand on fait une musique, soit de film, de théâtre, de danse, les gens viennent nous voir. Est-ce qu'on peut réécouter? Bon, et c'est pas toujours possible, en fait, de sortir ces musiques-là. Ici, avec le TNM, avec Lorraine Pintal, avec qui j'adore travailler, on a travaillé vraiment plusieurs années aussi sur ce projet-là parce qu'il a fait partie des projets remis de pandémie et tout ça. Et à la base, j'étais pas supposée être sur scène. Et finalement, après, mais la musique était pratiquement toute composée. Lorraine souhaitait que je sois aussi sur scène en train de jouer. Donc, j'ai refait plusieurs pièces. Puis, ben, j'en ai quand même gardé qui étaient déjà enregistrées avec Quatuor. Et en fait, c'était de pouvoir garder tout l'aspect romantique, l'aspect délicat de cette pièce-là et de la rendre disponible parce que j'ai complété, en fait, après même avoir fait après que les représentations aient été terminées, là, j'ai vraiment voulu terminer, moi, les enregistrements parce que quand on joue sur scène, surtout pour le théâtre, que ce soit les pièces enregistrées ou quand on joue, ben on a rarement l'occasion de faire la pièce au complet ou même qu'on l'entende, c'est très fort parce qu'on est vraiment au service de la pièce, au service de l'émotion, des comédiens, des dialogues et tout ça. Donc, c'est comme si, tu sais, je mets beaucoup de temps sur ces musiques-là, je les aime beaucoup et elles viennent vraiment creuser un petit espace à l'intérieur de moi. Puis, je voulais leur donner une vie qu'elles puissent continuer de vivre, puis que les gens puissent les écouter. Ceux qui ont vu la pièce peuvent aller se dire « Ah oui, ça c'était ça et ça ». Mais sinon, elles ont quand même, je pense, une vie propre. Elles peuvent venir susciter, je pense, ou réveiller des émotions malgré le fait qu'on n'ait pas vu la pièce.
Avant de finir, peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de projets futurs dont tu aimerais faire part à nos auditeurs?
Ben, Il y a tellement de choses. J'ai eu la chance de participer. Tantôt, je vous parlais de MNET7. À l'intérieur de ce projet-là, il y avait aussi le but de mêler plusieurs formes d'art, de la technologie d'avant-garde. Puis, en fait, je suis aussi une fan de réalité virtuelle et j'ai eu la chance dans les derniers mois de travailler pour Félix and Paul. Et on a sorti une première vidéo, Blue Marble 1, où on a une rencontre intime avec la planète. C'est la première fois que des images à l'extérieur de la Station spatiale internationale sont prises. Parce que souvent, on a vu la planète, évidemment, mais à l'intérieur de la station. Donc, si on se tourne la tête, ben on est à l'intérieur de la station. Tandis que là, la caméra a été agrippée, si on veut, au bras canadien à l'extérieur. Donc là, on a cette planète et on est vraiment dans un mode contemplatif. C'est pas comme dans un documentaire où il y a quelqu'un qui parle et nous explique. Donc, ils m'ont demandé de composer pour, dans le fond, être dans ce mode contemplatif avec la planète. Mais tu sais, on se tourne puis on voit la Lune, on se tourne puis oui, on voit la station spatiale derrière et c'est vraiment fantastique. Donc ça, oui, puis là, on a terminé en fait une trilogie. Je travaille avec un autre compositeur aussi qui s'appelle Frédéric Bégin. Puis on a terminé, dans le fond, les trois expériences qui durent 20 minutes chacune. On vient de les terminer là. Donc ça va sortir bientôt, les deux autres.
Et par exemple, sur un projet de la sorte, est-ce que tu improvises en regardant les images? Comment est-ce que la musique naît de tout ça?
Il y a quand même une direction qui est claire de la part de l'équipe de Félix and Paul. Et donc, une vision à laquelle j'adhérais complètement parce qu'on veut pas quelque chose, on voulait surtout pas une musique qui nous dérange, non mais ou qui nous amène ailleurs. On voulait quelque chose de très contemplatif, de quelque chose de méditatif. Donc c'est de trouver dans la répétition sans que ce soit toujours pareil, tu sais, mais d'avoir ce sentiment d'être vraiment toujours dans cette même bulle, mais avec une petite évolution qui nous permet d'avancer parce que la planète, elle tourne. Puis, en tout cas, c'est... Donc, oui, il y a beaucoup... Je me pinçais, là. Je voyais ces images-là. J'étais comme, waouh, c'est trop beau. Donc, oui, les images influencent et inspirent énormément. Ouais.
Est-ce que tu voulais parler d'autres projets, peut-être?
Ben, il y en a d'autres, c'est sûr. Il y en a un que j'attends pour... on s'en reparlera une prochaine fois. Puis une autre, ben, je suis en train aussi de composer une symphonie qui sera jouée par l'Orchestre métropolitain, dirigée par Yannick Nézet-Séguin, qui va servir, en fait, à une œuvre chorégraphique. Donc ça, c'est aussi une composition qui me traverse, qui m'inspire avec toute cette possibilité de avec ces musiciennes virtuoses qui vont être au service de cette œuvre chorégraphique-là, en fait. C'est là où est-ce qu'on est... Faut que tout le monde dirige cette énergie vers les interprètes, vers les danseurs-interprètes. Alors, c'est très beau.
Et j'avais encore une dernière question, peut-être. Je voyais que tu étais quand même actif aussi sur Internet avec toutes sortes d'applications qu'on peut utiliser sur ton site Internet.
Ben, est-ce que tu parles de l'application, justement, où est-ce que tu l'as essayé, celle avec l'arbre qui
apparaît? Avec l'arbre, exactement.
Oh, ben ça, c'est drôle parce que, écoutez, il s'en passait tellement, là, des choses que j'ai l'impression qu'il était passé un peu dans le beurre, mais On a tellement travaillé fort sur cette application-là, avec la pièce Nouvelle Novembre. C'est vraiment magique parce que dans ta pièce, tout d'un coup, on a cette espèce d'arbre. Oui, il y a toutes les particules qui volent, tu sais, qui sont juste comme ça, qui sont là, puis qui réagissent quand même au mouvement, là. Tu sais, tu peux les tasser, tu peux... Mais à un moment donné, il y a cet arbre magnifique. Tu sais, on me demandait qu'est-ce que tu aimerais voir, qu'est-ce que tu... Puis c'est ça, c'est peut-être avec ce lien, comme je parlais tantôt avec le lien à la nature. Je voulais cet arbre qui pousse et qui nous enveloppe.
Ben, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions.
Ça me fait plaisir.
Merci pour avoir écouté notre balado Rencontre en trois temps. À bientôt.